France Culture, les matins d'été, Lucas Manger.
J'étais seul juge d'instruction à Épinal du 1er septembre au 31 décembre 84. Comme par hasard, je n'ai jamais eu autant de dossiers à traiter que cette année-là. J'avais deux cabinets à gérer pendant 4 mois. Et d'autre part, il y a une autre dimension qui a été très importante, c'est la pression médiatique. Et donc, moi j'ai pris, j'ai ma part de responsabilité dans la mesure où je l'ai inculpé, mais bien évidemment, je ne me suis pas levé un beau matin en disant « Tiens, aujourd'hui je vais inculper Bernard Laroche parce que bon, cette affaire je commence à en avoir assez, il faut en terminer ». C'est parce que j'avais des éléments à charge contre lui qui peuvent expliquer la suite des événements. Quand vous vivez au quotidien des atteintes personnelles. Ah oui. Je m'en souviens 30 ans après. Je ne dirais pas que j'y pense tous les jours, évidemment. Mais c'est une affaire qui m'a accompagné tout au long de ma carrière et de ma vie.
Le juge Jean-Michel Lambert au micro de BFM TV, c'était en 2014. Bonjour Patricia Tourangeau.
Bonjour.
Bonjour Anne-Claude Ambroise-Rendu.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être là pour parler de cette affaire Grégory, cette affaire hors norme qui a pris depuis hier soir donc une dimension nouvelle avec la mort probablement par suicide du juge Lambert. Une affaire hors norme, on donne juste quelques repères, qui démarre le 16 octobre 84 avec l'assassinat donc de Grégory Villemain, qui connaît hier soir 32 ans plus tard, 32 ans après les faits, ce rebondissement. Et entre-temps, une affaire judiciaire, une affaire française absolument hors norme. Patricia Tourangeau, vous êtes journaliste au Jour, le journal Les Jours, le journal digital Les Jours, et vous publiez en ce moment une obsession, le nom de ces enquêtes au long cours que vous faites au Jour, consacrées à l'affaire Grégory. Anne-Claude Ambroise-Rendu, vous êtes historienne, professeure à Limoges et spécialiste justement de l'histoire des crimes et de la place des crimes dans les médias. Il y a un mois, l'affaire Grégory à peu près un mois, le 14 juin, l'affaire Grégory repartait. À Dijon, les gendarmes qui avaient discrètement, visiblement, enquêté depuis plusieurs temps, arrêtent Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de la famille. La presse repart l'épanche sur Vologne. Et puis, la semaine dernière, c'est Muriel Boll qui revient dans l'actualité, 29 juin. Elle avait 15 ans à l'époque des faits. Elle est aujourd'hui en prison, mise en examen. Elle a d'ailleurs cessé sa grève de la faim hier à 17h, quelques heures avant la mort du juge Lambert. Ce sont évidemment que quelques éléments de ce dossier absolument tentaculaire dans lequel je crois il y a plus de 70 personnes qui ont été entendues. Mais la mort du juge Lambert hier soir, alors Patricia Tourangeau, est-ce qu'elle risque d'enfermer des secrets ou au contraire elle indique un nouveau chemin ?
Elle indique la poursuite du chemin repris par les gendarmes actuellement sur la piste originelle du juge Lambert qu'il avait saboté à l'époque. Il faut bien le dire parce que...
Alors c'est revenons sur cette piste quand même pour donner quelques éléments.
C'est-à-dire que l'instruction actuellement et l'enquête repart sur la première piste de l'implication possible... de feu Bernard Laroche, qui était le cousin germain de Jean-Marie Villemain.
Soupçonné à un moment.
Inculpé à l'époque pour l'assassinat de Grégory par le juge Lambert. Et puis ensuite, libéré, sans protection, et abattu par Jean-Marie Villemain, qui pensait toujours que Laroche était
le coupable de la mort de son fils
chéri. Donc là, on revient au point de départ. L'enquête, elle revient au point de départ. Et moi, je pense que c'est une piste que le juge Lambert n'aurait jamais dû abandonner. Mais à l'époque, il avait des éléments, comme on l'a entendu tout à l'heure, il avait des éléments à charge contre Bernard Laroche pour l'inculper, certes. Mais ensuite, ces éléments-là, par des fautes de procédure, par du manque de discernement, par une accumulation d'erreurs, se sont évaporés. Par exemple, il y avait une expertise en écriture, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas une science exacte, mais qui indiquait quand même que Laroche était probablement le scripteur de certaines lettres anonymes du corbeau les plus menaçantes vis-à-vis du mioche, comme il disait, de Jean-Marie Villemain, le chef, jalousé parce qu'il était contremaître. Dans cette expertise, il y avait notamment en plus, un foulage sur la lettre de revendication du crime que le corbeau avait posté de l'épanche sur Vologne le soir même, en fait, du crime. Un foulage, ça veut dire une espèce d'empreinte en filigrane de deux initiales qui étaient celles de Bernard Laroche. Ce foulage, le juge Lambert l'avait vu, le gendarme Klein en avait fait des photos. Et il y a un bordereau qui indique que ces photos ont été remises par le gendarme Klein et l'expert au juge. Et elles ont disparu du dossier, les photos. On ne sait pas où elles sont. Et il y a plein de trucs comme ça qui font que, finalement, les éléments à charge qu'il avait contre Bernard Laroche ont été annulés pour des raisons de procédure, pour des vices de procédure, par ses avocats, qui étaient extrêmement bons dans sa défense.
Mais est-ce que la disparition du juge Lambert risque aussi de faire disparaître une partie de la vérité ? Est-ce qu'il est possible que le juge Lambert avait gardé quelques éléments, ou est-ce qu'il aurait pu être convoqué de nouveau par ses successeurs, d'une certaine manière, à l'instruction?
Je pense pas. Il n'avait pas gardé d'éléments, parce que même au moment de la sortie de son livre en 2014, qui s'appelle « De combien d'injustices suis-je coupable ?», en fait, il se flagelle en disant « Le pauvre Bernard Laroche, il a été pris dans une nasse judiciaire, ceci, cela. » Donc finalement, il était toujours, aujourd'hui, jusqu'à sa disparition, il était persuadé finalement d'avoir commis une erreur judiciaire dans ce sens-là, et sans un mot pour Christine Villemain, sans un mot de regret ou d'excuse pour Christine Villemain, qu'il a poursuivi, qu'il a mis en prison alors qu'elle était enceinte de 6 mois, etc. Donc, il devait être convoqué, il aurait été convoqué certainement, mais il fallait pas attendre du juge Lambert grande révélation.
Le juge Lambert disait et a dit à un moment, c'est le diable qui mène l'enquête dans cette enquête sur l'affaire Grégory, comme d'une certaine manière pour se dédouaner peut-être d'un certain nombre d'erreurs, effectivement, de procédures qu'il aurait pu commettre. C'est une enquête et une affaire hors norme en France.
Oui, c'est une affaire hors norme. Je vous ferai remarquer que c'est quand même une chose qu'on dit assez régulièrement à propos de faits divers criminels.
Alors qu'est-ce que celle-ci a de plus ?
Qu'est-ce qu'elle a...
Si elle n'est pas seulement hors norme, Anne-Claude Ambroise Rendu.
Alors, elle est fascinante d'abord parce que d'une manière générale quand même, le fait divers criminel, et il faudra peut-être revenir sur la définition du fait divers criminel, est quelque chose qui fascine. Et c'est un double paradoxe, d'une part parce que il s'agit en général d'une affaire sordide, tragique, on le voit, le dernier épisode le montre.
Là, on a tous les éléments du sordide et du tragique.
Absolument, on les a tous. Et c'est une affaire qui met le lecteur et le téléspectateur, qui est spectateur du coup, en prise avec le réel. Et pourtant, ce lecteur et ce téléspectateur, il sait que ça n'est pas exactement le réel qu'on lui montre, qu'il y a dans cette mise en récit, dans cette mise en image de l'événement, des procédés fictionnels. Il y a du roman noir, il y a du roman policier dans tout récit de faits divers. Donc il y a une part de divertissement, et c'est ça qui est terrible. Il y a une part de divertissement dans l'intérêt que les spectateurs éprouvent pour le fait divers. Et pourtant, il y a aussi une charge de réalité très concrète, évidemment. Alors, pour cette affaire en particulier...
Oui, parce que qu'est-ce qui fait... Là, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout, mais revenons en 84. Dès 84, cette histoire, l'affaire, le meurtre, l'assassinat du petit Grégory, devient un sujet national. Mais quand je dis national, c'est évidemment, il fait la une des journaux, des radios, mais il s'invite aux tables de toutes les familles, où chacun a sa théorie, c'est Bernard Laroche, non c'est pas Bernard Laroche, c'est Christine Villemain, j'en suis sûr, je l'ai lu dans tel journal. Ça devient quelque chose de un phénomène à la fois de société et de famille.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce qu'il s'agit de la mort d'un enfant, un petit garçon de 4 ans et demi. Et ça intervient à peine 10 ans après l'affaire Annucci 74-76, où il y avait déjà la mort d'un enfant, et après l'affaire Patrick Henry 76-77. Et 3 ans après l'abolition de la peine de mort, qui était directement en rapport avec ces deux affaires précédentes. Or, à chaque fois qu'il y a mort d'un enfant, qu'il y ait assassinat d'un enfant depuis la fin du 19e siècle, ça suscite des discours et des images en grande quantité. Et puis ensuite, il y a toute une série d'événements, ce que j'appellerais le trouble dans la famille. Hein, effectivement, c'est une affaire familiale qui oppose des partis très, très campés et de manière très dramatique, puisqu'il y a donc l'assassinat de Bernard Laroche. Et puis, toute une série de dysfonctionnements institutionnels, judiciaires, dont la mort du juge Lambert est le dernier témoignage. Donc, c'est une affaire qui éclaire en quelque sorte les dysfonctionnements de la justice. Et puis, enfin, le dernier élément, je dirais, c'est le mystère qui perdure, l'énigme jamais résolue, hein, qui ouvre une série dont la clôture n'est pas assurée. Elle l'est un peu plus aujourd'hui en raison des derniers rebondissements. Et donc, évidemment, ça donne prise d'abord à une série de rebondissements. Alors, rebondissement, le terme étant lui-même aussi à interroger, hein, c'est quand même un terme qu'on utilise pour de la fiction, en principe, qui autorise les nouvelles expertises en raison des progrès de la science, hein, par exemple, la réouverture du dossier pour l'examen de l'ADN sur les timbres des lettres du corbeau en 99, puis en 2009, et puis plus récemment, le rôle joué par le logiciel Anacrim. Tout ceci, donc, qui inscrit la chose dans la durée et qui permet le feuilleton, simplement.
Mais justement, Patricia Touranchot, vous avez repris récemment les différents éléments de ce feuilleton.
Oui.
Le corbeau, le juge Lambert, Christine Villemin.
Muriel Boll.
Muriel Boll, parce qu'on va évidemment en parler. Muriel Boll est en prison en ce moment.
Oui.
32 ans après les faits, elle est de nouveau en prison.
Mise en examen pour enlèvement, suivi de mort.
Et confrontation à venir avec un de ses cousins, puisque je rappelle très brièvement les faits, mais Muriel Boll est donc interrogée par les juges, et elle dénonce d'abord, évidemment Bernard Laroche, et puis elle revient sur les faits, un cousin dit aujourd'hui qu'elle revient sur les faits parce qu'en gros elle a été tabassée par toute sa famille qui lui dit tais-toi.
Oui, alors ça on le savait un petit peu déjà.
On le savait un peu, mais là il y a un témoignage, c'est
la première fois. Voilà, bien sûr, et alors apparemment c'est un cousin pas si éloigné que ça, enfin ce serait un cousin germain qui aurait assisté le 5... Parce qu'il faut se remettre à l'époque, en fait Muriel Boll, elle est convoquée par les gendarmes au départ pour une broutille. En fait, son emploi du temps est discordant par rapport à celui de Bernard Laroche. Au départ, les gendarmes, ils ont un petit soupçon sur Laroche parce qu'il correspond bien au profil, mais rien de plus, quoi. Et donc, il est interrogé parmi tant d'autres et lui a dit, ce soir-là, je suis arrivée chez la tante Louisette Jacob. Muriel était déjà là. Or, Muriel Boll, sa petite belle-sœur de 15 ans, dit, moi, quand je suis revenue du collège, je suis allée chez la tante Louisette pour faire mes devoirs et Bernard était déjà là avec son fils Sébastien. Donc, il y a une discordance qui fait que les gendarmes disent, bon, alors, lequel est arrivé en premier ? Là, ça va pas. Et petit à petit, les gendarmes vérifient l'emploi du temps de Muriel et constatent que, enfin, le chauffeur de car, qui d'habitude la ramène chez sa tante Louisette, là, au Monzay, dit, bah non, ce soir-là, la petite Rousse n'était pas là. Et je la connais bien parce que ses cheveux, enfin, je l'ai repéré.
Et puis c'est un personnage qu'on identifie assez bien, immédiatement d'ailleurs.
Et du coup, mise face à ses mensonges sur ce point, Muriel Boll raconte aux gendarmes, voilà, elle craque et elle dit, j'étais pas dans le car. Parce que c'est mon beau-frère qui est venu me chercher. Il est venu me chercher au collège, Bernard Laroche. Il y avait déjà son petit garçon, Sébastien, à l'arrière. On est allé, la voiture est allée donc jusqu'au village de L'Épanche-sur-Vologne. Il est sorti, il a fait monter un petit garçon avec un bonnet, donc Grégory. Ensuite, on est partis tous ensemble. Et puis, dans un village, donc du côté de Dossel, près d'une place, Bernard est sorti avec le petit garçon. Et puis, il est revenu tout seul. Voilà, donc ce sont ces aveux-là. Les gendarmes alertent le juge Lambert à ce moment-là en disant « Attendez, Muriel Boll, elle dit des choses très importantes. » Et le juge Lambert doit partir en week-end de la Toussaint.
Et il ne compte pas renoncer à son week-end.
Voilà, et ce qui se passe en fait, c'est que les gendarmes remettent Muriel dans sa famille. Alors, le père de Muriel a tenu promesse, c'est-à-dire les gendarmes avaient dit « Attendez lundi matin, s'il vous plaît, n'en parlez à personne, parce que lundi, Muriel sera entendue par le juge. » Et donc, par chance, ils ont tenu le secret, Muriel et son père. Le lundi matin, elle a réitéré ses révélations devant le juge Lambert, qui lui a bien posé des questions tout seul
sont les gendarmes en disant comment ils t'ont traité, ça va, on t'a pas suggéré de réponse. Enfin, que c'est, il était quand même assez suspicieux. Donc elle a tout répété en détail, avec des détails que les gendarmes et le juge ne connaissaient pas, parce que ils sont allés avec elle le jour où elle réitère ses aveux chez le juge. Ils sont allés faire le trajet et par exemple, elle avait parlé. À un moment, son beau-frère se serait arrêté vers la poste de l'éponge où une lettre du corbeau avait été postée et elle avait indiqué la route était barrée, il y avait des travaux, donc il a tourné par là, etc. Et ça, c'était juste. Il y avait quand même des détails que les enquêteurs ne savaient pas.
Et puis, elle revient, on va l'écouter. C'était en 84 à la radio.
À 17h15, bah, j'étais dans le corps qui me descendait au Mosée chez ma sœur Marion. J'ai vu mon beau-frère assis à la cuisine avec son fils sur les genoux. J'ai regardé la télé.
Mais d'après les gendarmes, ce que vous nous dites est faux. Vous étiez avec Bernard Laroche à Docelles.
Je n'étais pas avec Bernard Laroche à Docelles. J'ai jamais été avec lui là-bas.
Vous revenez sur votre déclaration faite aux gendarmes.
Ouais. Parce que c'est eux qui m'ont forcé à dire ça. Ils m'ont forcé à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. Parce que mon beau-frère, ils m'ont dit que mon beau-frère avait dit pareil. J'avais confiance aux gendarmes. Et c'était un piège et j'ai tombé dedans.
Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège?
J'avais peur des gendarmes. Ils ont profité que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeur. Ils m'ont dit pour la maison de correction que Bernard avait dit ça. Puis si je disais pas ça, ils me mettraient dans une maison de correction.
Vous n'êtes pas allé chercher Grégory?
J'ai jamais été chercher Grégory. Je connais pas le petit Grégory Villemain. J'ai jamais été à l'éponge ni à Docelles.
Muriel Boll, le 7 novembre 1984, à ce moment-là, Muriel Boll et le juge Lambert sont déjà deux grands personnages de cette histoire.
Oui, oui, majeur. Mais la pauvre, enfin, moi, elle me fait de la peine quand je l'entends comme ça, la petite Muriel Boll. Parce que, effectivement, elle a toute sa famille ado. Le juge Lambert la remet dans sa famille, sans protection, sans rien. Et visiblement, d'après le cousin qui a révélé récemment toute cette soirée, elle a été remise, elle a pris une rouste, elle a été frappée pour retirer son témoignage. Parce que quand même, du coup, son beau-frère Bernard Laroche se retrouve inculpé et écroué le jour même par le juge Lambert. Et donc, elle, voilà, elle vient d'accuser le mari de sa sœur et tout. Donc, voilà, je comprends qu'elle se rétracte. Parce qu'en garde à vue, elle avait dit au médecin, tout va bien, les gendarmes, c'est mes copains, bien sûr, je suis bien traitée. Donc, voilà.
Anne-Claude Ambroise Rendu, on entend déjà dans cette interview qui est faite à la radio de Muriel Boll, le rôle du journaliste, le rôle des journalistes et des médias d'une manière générale dans l'affaire Grégory a pris aussi une importance démesurée, aussi dans le rapport que le juge Lambert a eu avec les médias, une fascination pour les médias et lui voulant exister beaucoup dans la place médiatique. Mais faut se remettre dans le contexte où un petit village, l'Épanche-sur-Vologne, est tout d'un coup pris d'assaut par des centaines de journalistes français qui vont travailler pendant des années sur cette histoire.
Oui, le contexte est aussi celui du milieu des années 80, c'est-à-dire un contexte qui devient extrêmement concurrentiel pour les médias, et donc dans lequel il est très important pour les journalistes d'être au premier rang, d'avoir l'information immédiatement et de la transmettre. Donc il y a cette dimension, je dirais, commerciale, hein, qui a été dénoncée maintes fois depuis, d'ailleurs, de marchandisation en quelque sorte de l'information, a évidemment joué un rôle important. Et il n'est pas très étonnant dans ces conditions qu'un juge ait eu du mal à résister à cette pression-là. Alors, en effet,
mais un juge qui est lui-même, parce qu'il y a des clans de journalistes, il y a les clans qui sont pro-Villemain, les clans qui sont pro-Laroche, et le juge joue aussi un peu de ces clans.
Bien sûr, il y a le juge comme les journalistes d'ailleurs, hein, les familles ou les journalistes et le juge et les avocats, chacun a choisi son camp, a choisi son clan, et évidemment c'est du conflit que naît la meilleure actualité. On le sait bien, et que le traitement de l'actualité devient intéressant. Donc, je crois que les médias ont une part de responsabilité. Attention, il ne s'agit pas de les désigner comme étant les coupables dans cette affaire, hein, mais ont une part de responsabilité, comme à chaque fois d'ailleurs, puisque c'est par les médias que ces affaires-là deviennent publiques et uniquement par les médias. Le fait divers, c'est quoi au départ? C'est une rubrique médiatique, c'est une rubrique de presse, ça n'est pas autre
mais
chose.
Mais celui-ci prend immédiatement une dimension particulière parce qu'il a quelque chose de presque universel, enfin on dirait une tragédie grecque dès le départ de l'histoire.
Comme beaucoup d'homicides.
Comme, là, comme beaucoup.
Alors, après, voilà. Il y a les corbeaux.
Mais il n'est pas unique dans l'histoire du crime non plus.
Pas du tout.
Cette histoire du corbeau.
Mais le corbeau revendique le crime. Il envoie une lettre à Jean-Marie Villemain et il lui dit « Voilà ma vengeance, pauvre con. C'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. » Et là, dès le départ, il y a quand même le mobile du crime et le fait que le corbeau, en tout cas le scripteur, parce que des corbeaux qui ont donné des appels téléphoniques anonymes, il y en a plusieurs. Mais le corbeau scripteur qui fait des menaces de mort sur le gamin déjà, qui en a fait précédemment, et qui là revendique le crime, à mon avis, donne une dimension supplémentaire à cette affaire.
Mais le juge Lambert, à l'époque, il faut aussi le souligner, il a 32 ans. C'est son premier poste. Quand il sort de l'école de la magistrature, on dit il faut surtout pas le nommer juge d'instruction, il n'est pas fait pour ça. Et il est nommé juge d'instruction. Il est débordé de dossiers, il en a plus de 200, je crois. Et la pression sur ce juge d'instruction est phénoménale.
Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas d'institution infaillible. Hein. Et l'État comme la justice ont reconnu leur tort en l'espèce, puisque des dommages et intérêts ont été versés aux deux parties, d'ailleurs. Mm-hmm. Bon, donc là, c'est bien la reconnaissance du fait qu'il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs, bien sûr.
Patricia Touranchot, le rôle des corbeaux, oui. Vous avez beaucoup écrit là-dessus, aujourd'hui apparaît beaucoup plus fondamental qu'il ne l'était à l'époque. C'est-à-dire que l'enquête reprend rapidement, parce qu'on se retrouvera après le journal de 8h évidemment, mais l'enquête reprend à la base.
Au point de départ. Parce que le corbeau commence en 81. Donc il y a plusieurs corbeaux qui font des appels téléphoniques anonymes. Environ un millier d'appels téléphoniques. Là, il y a plusieurs corbeaux. Mais parmi eux, il y a un corbeau à deux têtes, une voix rauque essoufflée et une voix de femme qui sont beaucoup plus menaçants et qui vont menacer directement le chef Jean-Marie Villemain et de s'en prendre à son mioche. Et puis il y a le corbeau qui écrit vraiment ces menaces. Donc la dimension de ces malveillances anonymes est majeure.
On vous retrouve, Patricia Touranchot et Anne-Claude Ambroise-Rendu, après le journal de 8h.